Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 78, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Jean-Aimé Biguinamira, plus connu sous le pseudo de DJ Jabig. Et vous savez quoi? Je ne vais rien vous dire de plus. Regardez bien la photo de couverture de cet épisode et vous découvrirez le reste en écoutant. Avant de lancer l'épisode, ce week-end, donc le 3 octobre, samedi, j'ai participé à la Touraine Gravel Challenge, c'était super bien. Dans les jours qui viennent, je consacrerai un mini-épisode pour décrypter certaines de mes observations en matière de préparation et choses diverses sur cet événement. En attendant, je vous encourage vivement à aller les suivre sur Instagram et sur Facebook. Les liens utiles seront dans les notes du podcast. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzol. De plus, la nouvelle version de Spotzol demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Et maintenant, donc, sans plus attendre, DJ Jabig. Allô ?
Bonjour, ça va ?
Bah ça va et toi ?
Je vais très bien, merci.
Ah bah dis donc, ce n'est pas facile de s'appeler outre-Atlantique, dis donc, à travers l'Atlantique.
Je pense que c'était un problème avec mon logiciel.
Ouais.
Je l'ai rallumé et voilà, maintenant ça marche.
Bah tu vois, finalement, on se complique toujours la vie avec l'informatique, mais des fois il suffit de rallumer, d'éteindre et rallumer, ça fonctionne toujours bien. C'est étrange.
Voilà, c'est ça, ouais.
Bon, dis-moi, il fait quel temps à Montréal ?
Il commence à faire froid déjà.
Ça y est, déjà.
Ouais. Il est temps d'allumer le chauffage.
Ouais.
Mais je lutte.
Tu luttes. Tu résistes, ouais, en fait, à l'allumage du chauffage.
Ouais. Voilà.
Ouais.
Parce que quand même, nous sommes mine de rien, c'est octobre, ouais, mais en même temps, c'est le Canada, quoi.
Oui. Oh, mais le problème, c'est que vous partez pour plusieurs mois de froid intense.
Ah ouais, c'est parti de maintenant jusqu'à plus ou moins mai.
Ouais.
Mais en même temps, ici, l'été, il fait 40, donc c'est
oui,
un peu extrême.
Un petit peu quand même. Oui. Et du coup, l'hiver, tu fais quoi ? Tu roules quand même ou pas ?
Ouais, je roule en hiver. Mmh. Ouais, je fais du vélo en hiver.
Ouais.
En fait, c'est vu que je ne fais pas de sport d'hiver, c'est le seul moyen de rester plus ou moins actif, mmh, mais aussi de faire passer le temps parce que sinon, ça devient trop long à rester assis à la maison, quoi.
Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas les sports d'hiver, bah, le truc typiquement canadien ou même les sports d'hiver plus traditionnels, ça ne te plaît pas ?
Ah mais non, mais tout simplement parce que il faut aller quelque part pour les faire.
Et tu ne te déplaces qu'à vélo ?
Non, c'est pas que c'est en fait parce que c'est une question d'efficacité. Mmh. Je sors de mon appart, je fais mes tours,
ouais,
mes sorties et je rentre.
D'accord.
Tandis que pour faire du ski de fond ou bien n'importe quel ski, il faut se déplacer, mmh, et peut-être aussi avoir une voiture. Et puis ça devient compliqué, quoi. Mmh. Et puis bah peut-être que je pourrais faire la course, mais je n'aime pas courir, donc. À part ça, je ne sais pas trop quoi faire.
D'accord.
Et les sports de salle, ça ne m'entraîne pas trop du tout.
Mmh. Donc toi, tu es plutôt dans une quête d'efficacité ou de...
Je dirais c'est pratique, mais aussi j'aime les. Je suis un être solitaire, mmh, donc le vélo me convient très bien.
D'accord. Bon, si on reprenait depuis le début, parce que moi, je me suis bien documenté sur toi pour maîtriser vraiment ce qu'on allait, tout ce que l'on allait raconter. Est-ce que tu, parce que j'ai laissé un petit peu planer le mystère, tu vois, dans l'intro, j'ai dit que tu étais DJ basé à Montréal, que la photo de couverture de l'épisode donnait une petite idée de ce qu'on allait discuter aujourd'hui. Mais alors déjà, est-ce que je t'appelle Jabig ou Jean-Aimé ? Parce que tu m'as repris dans le message tout à l'heure, tu préfères quoi ?
C'est Jabig, ouais. Parce que c'est mon nom de profession.
D'accord.
Et voilà, et la plupart des gens me connaissent en tant que Jabig.
D'accord.
Ouais.
Pas de souci. Bon alors, Jabig, qui es-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ?
Je m'appelle Jabig, je suis un DJ montréalais. Et entre-temps, ben, j'aime aussi faire du vélo. Et quand j'ai beaucoup de temps de libre, ben, je me lance des défis. Notamment une traversée du Canada en pignon fixe en hiver. Mmh. Ensuite, un tour du monde qui a dû plus ou moins être mis en pause dû à la pandémie.
Et oui.
Et là, en ce moment, je traverse le Canada pour la deuxième fois. Cette fois-ci pour lever des fonds pour un organisme nommé World Bicycle Relief, mmh. Qui fournit des vélos aux enfants et en Afrique rurale, mmh. mais aussi aux... à des infirmières ainsi que des sages-femmes et à des entrepreneurs aussi.
D'accord.
Et voilà. Et là, je suis presque à la fin de mon voyage vu que nous sommes au Canada en ce moment. Nous entrons dans une deuxième vague et donc je préfère plus ou moins arrêter parce que certaines provinces sont infranchissables.
Mmh. Et oui. Donc il vaut mieux rentrer vite à la maison. Alors on va reprendre toutes les étapes si tu veux bien de manière vaguement chronologique. Est-ce que tu es né à Montréal?
Ah non, je suis né au Rwanda et j'ai grandi au Kenya en Afrique du Sud avant de venir ici en 2002.
D'accord. Question bête, pourquoi avoir quitté le Rwanda ?
Ben, j'ai quitté le Rwanda parce que mes parents, ils faisaient leurs études à l'étranger. Mmh. Et puis entre-temps, il y a eu le génocide qui a fait que on a dû rester à l'étranger. Mmh. Et puis mes parents ont décidé de nous installer de déménager à Montréal, enfin au Canada, je veux dire. Et puis voilà. Depuis, je suis ici.
Pourquoi le choix spécifique de Montréal ? Est-ce que c'était parce que l'occasion s'est présentée ou il y avait vraiment une raison très précise, derrière ce choix ?
Mais parce que c'est une ville francophone. Tout simplement.
D'accord, tout simplement.
Ouais.
Bah, bilingue même, parce que ça parle quand même extrêmement bien anglais et puis. Je me suis un petit peu documenté et j'ai découvert qu'au Rwanda, les deux langues, entre guillemets, étrangères officielles sont l'anglais davantage et le français un petit peu moins également. Donc ça faisait peut-être un lien.
Oui, Montréal est bilingue, mais la langue officielle de montréalaise est le français.
Ouais.
Ah, même si partout.
Oui.
Si on parlait anglais, on se fait comprendre. Mais la langue officielle est le français et c'était, Pour moi qui suis francophone, c'était le meilleur endroit à m'établir.
D'accord. Alors, j'ai une question sur le Rwanda. La semaine dernière, une amie, Clémence, qui est belge, qui fait de l'ultra et des épreuves d'ultra, m'écrit en me disant « Richard, je suis bien embêté parce que j'hésite entre deux épreuves et notamment la Race Across Rwanda qui aura lieu normalement en février 2021 ». Et elle se posait des questions sur, entre guillemets, la sécurité pour une femme au Rwanda. Est-ce que tu peux me parler du Rwanda aujourd'hui, si tu le connais encore, et quels conseils tu donnerais éventuellement à Clémence, ou est-ce que tu l'encouragerais à aller faire cette épreuve ?
Ah ouais, je l'encouragerais fortement, parce que le Rwanda, c'est quand même un pays assez pacifique en ce moment, et aussi, disons que c'est un pays... Enfin, elle n'aura aucun souci. Évidemment, comme n'importe où, même ici à Montréal, il faut toujours quand même faire attention.
Bien sûr.
Mais sinon, il y a beaucoup de femmes qui voyagent au Rwanda seules et il n'y a aucun souci. Mais en fait, son problème sera un problème d'altitude parce qu'il y a beaucoup de collines. Mais franchement, question sécurité, ça va bien aller.
Je crois que c'est surnommé le pays des mille collines, c'est ça ?
Voilà.
Ouais.
Parce que ouais, c'est un pays qui n'est pas... Enfin, en tout cas, ce sont des collines, mais ce sont des collines quand même. Il y a pas mal de dénivelés.
Ouais.
Et faire du vélo là-bas, c'est pas... Enfin, en tout cas, ça... Il faut être prêt, quoi.
Oui.
Mais sinon, mes questions en sécurité, non, franchement, il n'y a pas à s'en faire.
D'accord. Ouais, les collines, le problème, c'est que même si ça va pas très haut, eh ben, c'est que ça revient souvent. S'il y en a 1000 et qu'il y a ce surnom, ça veut dire qu'au bout d'un moment, la répétition fait que ça pique un petit peu quand même.
Ah non, ça sera pas facile, ça je lui promets. Mais en tout cas, elle a juste à s'inquiéter de sa propre course. Mais sinon, bah, question sécurité, ça va aller, quoi.
Et ben voilà, Clémence, tiens le toit pour dit, tu peux foncer au Rwanda, tout ira bien, t'auras juste mal aux jambes. Et toi, en tant que, imaginons, il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de problème de frontières, tu peux voyager comme tu l'entends, ça t'intéresse toi ou pas de participer à des épreuves d'ultra, sachant que t'as quand même une grosse caisse? Et est-ce que ça t'intéresserait de revenir un petit peu, entre guillemets, courir au pays natal?
Mais déjà, je ne suis pas un coureur.
Ouais.
Je fais du vélo. Donc je ne fais pas de course, donc voilà. Mais en même temps, j'étais en train de faire un tour du monde avant que la pandémie ne s'arrête, et je comptais justement aller au Rwanda. Et donc oui, si demain la pandémie avait à se terminer, ben je reprendrais le vélo et je continuerais, parce qu'en ce moment j'étais en Suisse et j'allais franchir la frontière italienne,
ouais,
afin d'aller vers le Maroc et commencer le tour de l'Afrique. Et donc pendant mon séjour en Afrique, j'allais bien évidemment retourner au Rwanda,
ouais.
Et bon, parce que j'ai de la famille là-bas, j'ai beaucoup d'amis, mais aussi c'est là où je suis né. Et puis poursuivre la route, et puis parce que l'objectif en fait, c'était de faire un tour du monde. Et donc vivement quand dans l'effet de la pandémie, quoi.
Ben oui. Alors qu'est-ce qui t'a mis comment tu t'es mis au vélo?
J'ai toujours fait du vélo, mais rien de sérieux. Mais en 2015, j'ai acheté un vélo. Mais sans le savoir, j'ai acheté un vélo à pignon fixe. Et
sans le savoir.
Ouais, parce que en fait, je suis passé devant un magasin, j'ai vu un vélo qui me plaisait et je l'ai acheté. Ils m'ont dit, mais attention, c'est un vélo à pignon fixe. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Ils ont essayé de m'expliquer, ça n'a pas marché. Et donc, j'ai fait un petit tour. Bon, le premier, je t'avoue que 10 minutes plus tard, je me suis cassé la gueule parce que voilà quoi, je ne savais pas que les pédales, j'avais pas compris que les pédales continuaient à tourner.
Oui.
Et donc j'ai fait, franchement, c'est bon, mais je me suis dit quand même, j'aime bien cette sensation d'être collé au vélo. Et donc j'ai commencé à faire plusieurs sorties parce que étant DJ, mes journées sont libres, donc en semaine je faisais beaucoup de vélo.
Ouais.
Et puis 4 mois plus tard, j'ai réalisé que j'avais plus ou moins parcouru 5000 kilomètres parce que entre temps j'avais téléchargé une application nommée Strava. Et je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre parce que 5000 kilomètres, c'est de Montréal à Vancouver. Et c'est de là venue l'idée de traverser le Canada.
J'ai vu, parce que j'ai pas mal fouillé en fait, et sur plusieurs sites, on voit ton histoire répétée. Et à un moment donné, ça raconte que tu t'es mis au vélo pour échapper à une sorte de burn-out personnel et professionnel. Tu jouais trop en fait en tant que DJ, tu étais trop souvent à l'extérieur? Et tu avais besoin de te recentrer, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est juste parce que ça faisait 20 ans que j'étais DJ et ça devenait un peu trop lourd. Je me disais, mais attends, c'est la même chose. C'est genre, j'ai besoin de repos. Et en même temps, je n'ai jamais vraiment pris de vacances parce que je passe mon temps à voyager. Mais oui, les gens se disent, oui, mais tu voyages. Oui, mais je voyage pour le boulot. C'est pas la même chose. Et puis en même temps aussi, je me disais, j'approche la quarantaine, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui se passe? Parce que la musique que je joue est en voie de disparition, parce que je mixe la house, la deep house, et en même temps, je me dis, je vais passer à une autre étape dans ma vie. Et donc, je me suis dit, prenons une année sabbatique et allons voir ce qui se passe. Et franchement, c'est la meilleure des choses que j'ai faites.
Ah ouais? Pourquoi? Ouais.
Mais parce que des fois, il faut prendre du recul pour apprécier sa vie. Parce que déjà, en prenant du recul, j'ai remarqué que oui, je n'en avais pas marre d'être DJ, mais j'en avais marre de jouer dans certains milieux. Et quand je suis revenu, j'ai tout simplement changé les milieux, et depuis, tout va très bien.
Pourquoi la house et la deep house sont en voie de disparition?
Mais parce que c'est comme la disco, la musique se transforme, c'est toute musique à son temps. Et quand je dis la deep house, je parle vraiment de la deep house classique, pas de ce qui est maintenant surnommée la Deep House. Mais c'est une musique, les gens qui écoutaient ça à l'époque, maintenant, ils sont des parents, ils n'ont pas vraiment trop le temps de sortir. Et donc, le marché devient de plus en plus, plus petit, ce qui veut dire que c'est plus difficile de trouver des contrats. Même les contrats, ça ne paie pas aussi bien parce que c'est une question de...
D'audience.
Voilà, d'audience. Et donc de plus en plus, ça, le marché... en tout cas, c'est une musique qui... c'est comme le disco ou le jazz. C'est une musique qui est vraiment très, très limitée.
Et même temps, ça colle à une époque, en fait.
Voilà. Mais entre-temps, j'ai remarqué en fait qu'il y avait d'autres marchés dans le monde où la musique était toujours populaire, notamment en Europe et en Asie. Et donc, quand j'ai terminé mon voyage, je me suis dit, autant aller me présenter à ce genre de marché et voir comment... Et voir si je serais bien accueilli. Et ça, c'est vraiment... Et maintenant, je me produis à plus ou moins en Europe. Et je vais, en fait, avec la pandémie, je comptais aussi commencer en Asie. Et ça se passe bien. En fait, il se trouve que, oui, la musique en Amérique du Nord, elle n'est plus autant populaire, mais ailleurs, elle se porte très bien.
Qu'est-ce qui est populaire en Amérique du Nord en ce moment ?
Je dirais le hip-hop. Enfin, je ne dirais pas. Je sais que c'est le hip-hop.
Et j'ai cru voir aussi, je fais une courte parenthèse parce que, on se connaît pas évidemment, on n'a pas eu le temps d'en parler avant, mais comme toi, j'ai deux amours dans ma vie, c'est le vélo et la musique, même si c'est dans un genre totalement différent, mais la musique quand même. J'ai vu quand même que tu t'es un petit peu diversifié, j'ai jeté un œil à tes playlists, enfin à tes mix sur YouTube, etc., sur Spotify. Il y a pas mal de musique brésilienne aussi quand même. Que j'adore.
Oui, je suis un DJ, je mixe la house, mais j'aime la musique. Et donc, la chose, c'est que, étant DJ, je peux mixer ce que j'aime. Mais plus ou moins d'une manière assez stratégique, j'ai décidé de mixer la house parce que, évidemment, oui, j'ai des mix classiques, mais les mix classiques, ça se mixe pas. Je peux pas aller en boîte. Je connais aucune boîte de nuit qui va m'engager pour mixer la musique classique. Et donc, c'est pour ça que, en fait, c'était pour plus ou moins, parce que sur YouTube et sur Spotify et les autres plateformes, c'est une musique que les gens veulent écouter. Mais quand je mixe en boîte, c'est une musique pour que les gens puissent danser.
Oui.
Aussi simplement.
Juste pour un rappel, sur YouTube, il me semble que tu as 390 000 followers et tu cumules combien de minutes d'écoute sur toutes les plateformes de streaming confondues ?
Les minutes confondues, ça doit peut-être être, je dirais, peut-être 7 milliards. Deux minutes, ouais. Mais ça fait, franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vérifié.
Ouais.
Parce que, en fait, quand le site est devenu populaire, je me suis dit, OK, il sera là, j'ai rien à faire, il est là, quoi. Il faut juste, mais je sais que l'audience, petit à petit, il continue à grandir. Mais franchement, c'était très impressionnant parce que c'est en fait grâce à la chaîne de YouTube que j'ai eu une renommée mondiale. Et c'est grâce à ce canal qui m'a permis de voyager un peu partout et même de m'aider avec le vélo. Parce que la plupart des compagnies qui m'ont soutenu, ils étaient quand même les compagnies étaient assez impressionnées par le fait que j'étais déjà assez reconnu. Et donc, franchement, c'est drôle comment la musique a aidé mes traversées.
Ouais. Oui, parce que tu es soutenu, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Tu es soutenu par quelques marques dans tes projets qui soutiennent ton approche d'envoyer du matériel ou de l'argent pour le vélo en Afrique. Donc, c'est plutôt pas mal. Revenons à cette sorte de burn-out. Tu es parti, tu as traversé le Canada, c'est ça ?
Oui, j'ai traversé le Canada.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé à Montréal.
Pourquoi traverser le Canada ? Dans un premier temps.
Parce que je suis canadien. Parce que c'est mon pays, c'est aussi simplement que ça. Parce qu'en fait, j'ai décidé, je sais pas, j'ai décidé de traverser le Canada justement parce que je disais, j'avais traversé en été, j'avais fait plusieurs kilomètres et j'avais vu que c'était l'équivalent de la distance de Montréal et Vancouver, qui est située à l'océan Pacifique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas traverser le Canada? Aussi simplement que ça.
J'ai noté que, et là tu viens de le dire en plus, que sur les photos qu'on voit de toi derrière les platines, puisque tu joues aussi pendant tes voyages à vélo, pendant tes traversées, qu'il y a un petit drapeau canadien. Pourquoi pas une référence au Rwanda ou au Kenya ou à l'Afrique ? Pourquoi uniquement au Canada ?
Parce que, ça, mine de rien, ça fait... J'ai passé, je dirais... Attends... J'ai passé toute ma vie à l'étranger. À l'étranger, et je suis établi au Canada. Oui, cela n'empêche que je suis né rwandais, je suis africain, mais je suis citoyen canadien. Et cela, parce qu'en fait, cela n'empêche que... Enfin, le drapeau canadien, c'est là où je me situe. Parce que, en fait, moi, je vis dans le présent. Et en ce moment, ça fait quand même 18 ans que je vis au Canada, et j'ai 40 ans. Et j'ai quitté mon pays quand j'avais 8 ans.
Ouais.
Et ouais, je suis canadien, quoi. Et puis, mine de rien, quand je vais au Rwanda, enfin, ou quand je suis avec des membres de la communauté rwandaise, ben, ils disent, oui, tu es rwandais, tu es la tête d'un rwandais, mais tes maniérismes et tes habitudes ne sont pas vraiment très rwandaises. Et je dirais que je suis plutôt montréalais que même canadien, parce que même le Canada, c'est un pays quand même assez complexe, et certaines régions, enfin, même, oui, je vis au Québec, et je dirais pas vraiment que je suis québécois, mais je dirais que je suis montréalais.
D'accord. Et au cours de ton voyage, parce que pareil, j'ai noté que dans un article, tu as déclaré « je partais découvrir le Canada » et en fait, j'ai découvert les Canadiens. Qu'est-ce que tu as vraiment découvert sur les gens qui habitent le même pays que toi, mais qui est tellement vaste qu'il peut y avoir d'autres modes de vie, des modes de pensée radicalement différents de Québec. Qu'est-ce que tu as découvert justement au cours de ce voyage ?
Mais déjà, j'inclus le Québec aussi dans les Canadiens, parce que comme je dis, je viens à Montréal, et Montréal, c'est une ville très cosmopolitaine. La plupart des gens ici parlent trois langues. S'ils parlent trois langues, ça veut dire que leurs parents sont d'origine étrangère, ou bien ils sont nés à l'étranger. Donc, franchement, Montréal, c'est pas une image qui représente le Canada. Mais quand j'ai quitté l'île de Montréal pour aller, pour traverser le Canada et aller au Québec, déjà, c'était la première fois que je tendais vraiment du vrai Québécois. C'est-à-dire, parce que le Québécois qui se parle à Montréal, c'est un Québécois mélangé avec pas mal d'anglais. Mais quand j'étais au Québec, j'entendais un Français qui était 100% déjà français, mais qui était Québécois, c'était avec un accent aussi un peu différent. Mais aussi, j'ai vu comment qu'ils avaient des habitudes de vivre qui m'étaient un peu... Enfin, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi à l'échelle mondiale, les gens parlent des Canadiens, les Canadiens ont une certaine réputation, genre très poli, hospitalier, ainsi de suite. Et j'ai découvert ça de moi-même, quoi. Parce que franchement, même si j'étais dans le même pays, mais je me sentais à l'étranger, mais j'ai vraiment très bien, j'ai été bien accueilli. Et ce qui est drôle, c'est que eux aussi, le fait que je sois de Montréal, ils considéraient que c'était comme une terre étrangère. Parce qu'en fait, Montréal a une place particulière au Canada. C'est tout le monde, en tout cas, ça pourrait être, un pays à part, parce que vraiment, c'est très différent du reste du Canada. Et même Toronto est plus canadien que Montréal,
ouais.
Je dirais. Alors que la ville, elle est plus grande et puis est la plus... c'est la ville la plus grande au Canada et la plus développée. Mais Montréal est un peu différent. Et franchement, j'ai découvert les... Parce que j'étais accueilli par des familles et j'ai fait du vélo avec pas mal de Canadiens. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'arrivais pas à croire que nous étions dans le même pays, mais qu'on était si différents.
Et pourtant, vous étiez dans le même pays.
Voilà.
Est-ce que le fait de voyager à vélo a, selon toi, facilité les échanges dans le côté « Tiens, il voyage à vélo, il traverse le pays, c'est dingue. » Est-ce que ça facilite un petit peu, ouais. En tout cas, plus que si tu t'étais déplacé en voiture ou en autostop.
Ouais, évidemment. Le vélo, déjà, à la base, c'est... Bon, déjà, les gens me voyaient me pointer à vélo en hiver. Ça, ouais. Déjà, les gens, ils étaient un peu étonnés. Et puis pour me protéger du froid, j'étais couvert de la tête aux pieds, donc personne ne voyait la personne en dessous. Et quand j'enlevais mon casque et ma cagoule, ils étaient encore étonnés parce que je disais, ah, mais d'habitude, c'est pas ce genre de personne qui se pointe ici à vélo. Je te laisse croire je te laisse imaginer ce que je vais dire. Et puis, c'était quand même, et donc de là, c'était, mais d'où viens-tu? Parce que certains pensaient que je venais de l'étranger. Je disais, ah non, je viens de Montréal. Et puis c'était là la blague, c'était « Ah, mais c'est l'étranger aussi, quoi. » Mais franchement, à vélo, c'est plus facile aussi parce que c'est lent, on a le temps de... Déjà, je voyage plus lentement. En voiture, je peux faire 700 km par jour, tandis qu'à vélo, je faisais en moyenne 160. Et Et puis, je dois m'arrêter à des cafés. Des fois, je rentre dans des commerces juste pour me réchauffer et puis s'entamer des conversations. Et puis, des fois aussi, il y avait des moments où je traversais, parce que le Canada, c'est vraiment très grand et très désert. Et des fois, il y avait des gens qui me voyaient le matin en allant au boulot. Et le soir, quand ils rentraient, ils me retrouvaient sur l'autoroute. Et puis, ils s'arrêtaient et disaient, mais ce matin, je t'ai vu, t'es toujours à vélo, qu'est-ce que tu fais? Et puis, je disais, bah, en fait, je traverse le Canada, ils étaient épatés. Et puis, on s'entamait des conversations. Et puis, certains m'invitaient à passer la nuit chez eux. Ou bien, ils me disaient, ah oui, j'ai des amis ou de la famille, là où tu vas, ainsi de suite. Mais franchement, et c'est de là où j'ai dit, si j'ai vraiment, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Canada qui connaissent les Canadiens mieux que moi. Car j'ai, mine de rien, plus de 100, je dirais environ 110 familles m'ont accueilli. Et donc, j'ai vraiment eu le temps de bien connaître, enfin, plus ou moins le Canada en ensemble.
Ça t'a fait combien de kilomètres au total, cette première traversée du Canada, pardon?
La première traversée, c'était de... Ah, je m'en souviens plus. C'était entre 17 000 et 18 000. Et ça a duré 15 mois.
Ouais. C'était en quelle année? C'était en 2016, c'est ça?
Ouais, 2016 et 2017.
Ouais. Donc c'est cette traversée que tu as faite avec ton pignon fixe.
Oui, oui.
Ouais. Et donc c'est ça qui a donné le film Escape.
Ouais. Voilà. Évasion en français. En fait, il y a une version française aussi.
D'accord. Je me suis posé la question, parce qu'en fait, j'ai regardé le film, j'ai regardé qui avait réalisé. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un hasard que Angelina Yard, donc la réalisatrice qui a fait ce film, qui est une réalisatrice canadienne, ait également travaillé sur les ex-guerriers kényans devenus marathoniens et un autre sujet sur l'appropriation des terres en Afrique. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'était voulu? Et comment vous vous êtes rencontrés pour faire ce film?
Mais en fait, le film a été produit par... MSC, MEC en français, qui est une compagnie, enfin c'est l'équivalent, enfin ils vendent du matériel pour des activités en plein air.
Ouais.
Et ils ont entendu parler de ma traversée parce que des fois, oui, je m'arrêtais dans leur commerce pour faire certains achats, mais aussi ils étaient en mode en campagne de diversité et de représentation, parce que ils ont remarqué que voilà, à chaque fois qu'ils parlent des aventuriers, ils représentent les mêmes personnes. Ils ont dit pour une fois on va prendre des gens qui sont un peu différents, et ça tombait bien parce que j'étais d'origine, oui, j'étais canadien, mais d'origine pas le canadien typique entre guillemets, mais aussi j'avais un background un peu différent, disons que j'étais canadien, parce que d'habitude les aventuriers sont généralement aventuriers de carrière. Et ils étaient épatés par le fait que c'était un mec qui était DJ, qui avait décidé du jour au lendemain de tout lâcher et d'aller traverser le Canada à vélo, à pignon fixe et en hiver. Et donc, ils ont dit, dans cette initiative, on va faire un petit film pour essayer de raconter son histoire et partager ça avec notre audience. Mais ils ont décidé que le réalisateur ou la réalisatrice trouverait aussi une personne qui n'est pas nécessairement... une personne qui n'est pas nécessairement, on va le dire, blanche, parce que chaque fois, ils vont remarquer que c'était juste des réalisateurs blancs qu'ils engageaient, alors que, voilà, c'est les arts, ça ne se limite pas à une certaine race. Mmh. Et donc, ils ont décidé d'engager... En fait, ils ont parlé à plusieurs réalisateurs, ils l'ont engagé, mais en fait, Anjali, elle a été... elle était pas vraiment, elle faisait pas, parce qu'elle a fait des films, c'est pas vraiment des trucs commerciaux qu'elle fait. Non. Elle était pas trop intéressée. Et puis, elle a entendu que c'était un cycliste d'origine rwandais et qui traversait le Canada. Et elle a dit, mais ce mec qui est DJ et qui semble avoir une belle vie, qu'est-ce qui lui a pris d'aller traverser le Canada? En fait, elle était curieuse d'elle-même. Et là, dit, ça, c'est une histoire. Parce que là, dit, parce qu'en fait, oui, on va pas se mentir, la compagnie, la société, elle voyait un noir qui traversait le Canada. Et donc, elle se disait, ah ouais, ça va, ça tombe bien, ça va faire la belle image, oui, on va parler de lui. Mais la réalisatrice a dit, ah non, ça, c'est un être humain qui a choisi de s'évader. Et je veux savoir pourquoi il préfère être au fond de nulle part, en train de se geler, qu'être à Montréal, quoi. Et elle a voulu savoir le pourquoi des choses. Et elle a accepté de réaliser le film. Et en fait, moi, quand ils ont décidé de faire le film, ça traînait. Et moi, j'étais à la fin de mon voyage. Ils sont venus me retrouver le dernier jour de mon voyage. Et c'est là qu'ils ont tourné le film.
Donc, toutes les images qu'on voit sur la partie vraiment gelée, c'est à la fin de ton voyage, quand tu es arrivé quasiment dans la partie arctique.
Oui, voilà, c'était mon dernier jour.
Ouais. Et c'est... Alors, pendant le film, dans le début, tu dis dans la voix off, l'idée c'est de savoir ce qu'on fait ce que l'on fait sur cette terre. Tu le sais maintenant ?
Je le sais, et en fait, c'est pas très compliqué. C'est de vivre ma vie et de faire ce que j'aime et d'être entouré des êtres que j'apprécie. Et de ne pas trop me prendre la tête. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème. Mon problème, que je... Évidemment, j'ai un problème d'anxiété. Et je me fais pas mal de soucis à propos de l'avenir. Et je me suis dit, en fait, il faut juste apprécier la vie et ce qu'on a à son moment. Et vivre. Et depuis que... Enfin, c'est facile à dire, mais un peu compliqué à vivre. Mais je vous dis que j'ai décidé de plus ou moins de ne pas trop vraiment prendre les choses un peu trop sérieusement et de profiter de la vie. Et c'est pour ça, en fait, que je continue à faire du vélo parce que j'ai vu que, voilà, c'est les fins plaisirs de la vie qui me rendent heureux. Et donc, je me contente des choses plus ou moins simples. Je mixe ma musique, je fais du vélo et je rencontre des gens sympas. Et c'est ça ma vie, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça que je me dis, en fait, la vie n'a pas vraiment besoin d'être compliquée. Parce que voilà, j'ai grandi avec les notions qu'il faut accomplir de grandes choses, il faut faire des choses, il faut laisser une marque sur Terre. Mais je me suis dit que en fait, ma manière de laisser une marque sur Terre, c'est à travers la personne que je suis et mes talents de musique. Et franchement, ça, c'est déjà pas mal.
Du coup, j'allais dire un truc certainement super intelligent, mais ça m'a échappé. Donc peut-être que ça reviendra plus tard. Je crois que c'était pas mal du tout ce que j'allais dire. Merde. Pardon. Normalement, je dois pas être trop grossier au micro, c'est dommage. Mais ça m'arrive quand même pas mal. Tant pis, ça reviendra. Comment ça s'est passé, cette traversée en zone glacée, quand tu es vraiment arrivé au fin fond du Canada? Parce que tu étais bien équipé, on le voit dans le film, mais pour le froid, mais au niveau des pneus notamment, tu as fait comment ?
En fait, j'avais des pneus à clous.
Ouais.
Et elles adhèrent très bien. Ouais. Franchement, c'est. En fait, dans le film, les gens voient des chutes. Ils disent, mais attends, mais pourquoi tu es tombé ? Et en fait, la raison pour laquelle je suis tombé, elle est très simple. Et que cette route, cette piste, en fait, c'est une rivière glacée, gelée, en fait, qui déneige pour que. Enfin, ça, ils en font une route pour joindre deux villes. Est-ce que se passait que je tombais parce que en fait il y avait les camions qui traversaient aussi qui empruntaient cette voie.
Ouais.
Et des fois c'est l'effet tremplin. Le fait que les camions qui venaient de très loin, un camion pouvait être un kilomètre, mais vu qu'ils étaient lourds, ils faisaient remuer l'eau en dessous. Et en fait c'était comme un tremplin et je tombais, quoi. Parce qu'en fait je perdais mon équilibre.
D'accord.
Mais sinon les routes elles adhéraient très bien, enfin les pneus adhéraient très bien, je veux dire. Et j'ai aucun souci. Et en fait c'est pour ça que des fois je m'embrouille avec l'équipe qui filmait. Je disais, en tout cas, vous faites ce que vous avez à faire, mais moi, je n'ai pas le luxe de m'arrêter parce que quand je m'arrête, j'ai froid. Donc, il fallait que je continue à faire mon vélo.
Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait en pignon fixe ? Parce que ça a quand même ajouté un sacré challenge à la difficulté déjà initiale de la longueur et du froid. Est-ce que tu regrettes ?
Ah non, pas du tout. Franchement, le pignon fixe était, et jusqu'à maintenant, quand je suis à Montréal, quand je fais pas beaucoup de distance, je suis toujours à pignon fixe. Parce que pour moi, c'était un bon défi. Mais, parce que la chose aussi, qu'est-ce que je voulais plus ou moins, parce que quand j'avais dit que j'allais traverser le Canada à pignon fixe, la plupart des magasins, la plupart, tout le monde avait dit, mais attends, ça va pas, personne ne l'a fait, tu vois, personne n'a jamais fait ça. Et c'est, en fait, parce que parmi les choses qui m'agaçaient, que j'en avais marre, que les gens me disent quoi faire. Et donc, je me suis dit, ok, je vais démontrer que voilà, c'est faisable. Oui, ça a rendu le voyage plus lent et plus difficile, mais franchement, je ne regrette pas. Est-ce que maintenant, je ferai un autre tour du monde ou bien un long voyage à pignon fixe ? Non, tout simplement parce que c'est une question de temps, mais aussi parce que entre-temps, je me fais un peu plus âgé et mes genoux ne vont pas tenir aussi longtemps.
Également, il y avait un record à la clé. Est-ce que c'était un objectif de d'avoir ce record dans le Guinness, ou c'est la petite cerise sur le gâteau?
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai tout planifié. J'ai dit, voilà, j'ai traversé le Canada, et je me suis dit, parce qu'en fait, quelqu'un m'a dit, mais tu veux faire un Guinness World Record? J'ai dit, ah bon? Et puis j'ai fait des recherches. J'ai vu que, ah oui, tiens, je peux essayer de battre un Guinness. Et je l'ai battu, mais le temps que je puisse démontrer que je l'avais battu, quelqu'un d'autre a fait une distance plus longue dans un autre pays, et je l'ai pas eu. Et donc c'est bon, mais et c'est pour ça qu'en fait j'étais pas vraiment trop déçu, parce que à la base c'était pas ça mon objectif, mais ça aurait été sympa quand même.
Si on parlait maintenant du tour du monde que tu avais donc planifié, qui s'appelle le DJ World Tour, c'est ça? DJ World Tour,
oui.
By bike, c'est ça?
Oui.
Ouais. Comment tu planifiais tes étapes, et comment tu trouvais les endroits où jouer ou te produire?
Mais la chance, comme j'ai dit, j'ai quand même un nom qui est assez plus ou moins reconnu un peu partout dans mon monde. Ouais. Et donc pour trouver les soirées, c'était pas compliqué, parce que oui, j'avais déjà mixé là-bas aussi en Europe. Je mixe souvent en Europe, donc c'était en fait. La différence, c'est que cette fois-ci, je me pointais à vélo au lieu de me pointer en avion. Mais sinon, pour les soirées, ça, c'était pas compliqué. Mais aussi, au fur et à mesure que je traversais, j'avançais, les gens entendaient parler d'un DJ qui faisait un tour du monde à vélo. Et donc, ça devenait plus simple. Mais pour les étapes, c'était tout simplement, de ville en ville qui m'intéressait. Par exemple, mais aussi, vu que j'ai vécu avec pas mal de gens qui viennent de partout, j'ai plein d'amis qui sont toujours en Europe, et donc c'était aussi une occasion pour leur rendre visite. C'était un tour de monde, c'est pour ça que je m'étais donné 5 ans, parce que je savais vraiment que j'allais traîner très et prendre mon temps.
Donc ça, est-ce que ça, parce que d'un point de vue revenu, ça peut être assez risqué finalement de partir quand même 5 ans. Est-ce que ça te permet aussi d'assurer une continuité dans tes revenus, et de continuer à alimenter les différents réseaux, notamment ta chaîne YouTube et Spotify?
Oui, parce que en fait, l'objectif aussi était de ne pas me ruiner et de financer le voyage, parce que pour moi, tout l'argent que je voulais lever, je voulais lever son montant pour le World Food Program, le World Bicycle Relief, et je me disais, dans ce cas, il faut que moi j'assure mes propres dépenses. Et donc, mixer était une manière pour pouvoir mes besoins. Et en Europe, ça allait très bien. Et en Afrique, je me disais, en Afrique, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Mais en même temps, je n'ai pas encore su ce que serait passé. Mais aussi, avec le plus le temps avancé, plus il y avait des compagnies qui voulaient parler de sponsorship. Ouais. Mais ça s'est jamais concrétisé, vu que la pandémie a plus ou moins mis mon voyage en pause, quoi.
Ouais. Au niveau du matériel, tu t'organisais comment? Pour emmener les platines, tout ça, c'est sur place, mais ta sélection musicale, tu fais comment pour transporter tes trucs?
Ah, mais de nos jours, les choses sont très simples. Un DJ...
Oui, je me doute que t'emmènes plus 4 cases de vinyle, ça, je me
doute. Ah non, ça, c'est...
Tu l'as fait quand même?
Ah, je l'ai fait, très, très bien même. Et le faire au Canada... Et le faire au Canada en hiver, c'est pas facile, parce que on peut même pas poser on peut même pas passer ces caisses par terre, parce que elles vont être trempées. Je l'ai fait et je regrette pas du tout. Les gens disent, ouais, mais les DJ mixent pas avec le vinyle. Ouais. Je dis, mais viens porter ça et puis tu verras, quoi. Tu me diras ce que t'en penses.
Les mecs qui l'ont fait sont super contents que Serato soit inventé. C'est génial.
Ah non. Moi, je me prends même pas la tête avec Serato. Moi, c'est carrément une clé USB.
Ouais.
Que je branche dans le CDJ, dans le lecteur, dans les lecteurs CD. Et puis voilà, ça mixe et voilà. Et donc, ça veut dire que quand je faisais ma tournée, j'avais juste mon casque et mes clés USB.
Oh.
Et voilà.
D'accord.
Et puis, quand j'arrivais chez des amis, j'empruntais leurs ordi et j'allais sur Internet. Je me ravitaillais en musique. Je prenais les nouveautés, je changeais un peu. Et puis, c'était tout simplement.
Si on parlait de ton vélo pour ce tour du monde, parce que là, par contre, tu as reçu de l'aide. Tu as un très, très beau vélo, je crois.
Ah oui, c'est parmi les meilleurs vélos, en fait. Oui. Et donc, c'est un vélo, c'est Open. Et c'est Open Upper. C'est un vélo de gravel, en fait. Mais parce qu'en fait, c'est un vélo qui a été fondé par l'ancien fondateur, enfin, pardon, le fondateur de Cervélo et l'ancien PDG de BMC. Et donc, ils se sont alliés pour faire une, pour, faire leur propre marque de vélo. Mais ils voulaient pas se prendre la, pas trop se prendre la tête. Ils voulaient faire quelque chose que eux, ils pourraient faire à leur manière et vendre à, sans vraiment être conforme au, au marché. Et ils ont plus ou moins ceux qui ont commencé la tendance des vélos de gravel avec qui peuvent qui sont des vélos de route qui peuvent plus ou moins prendre qui peuvent rouler avec des pneus qui sont assez larges. Et donc je savais que je voulais ce vélo et en fait j'ai parlé à mon équipe, je leur ai dit il faut qu'on ait ce vélo. Et puis qu'on a contacté Open, ils ont dit franchement nous on fait pas comme on a dit on fait pas se prendre la tête, on, les gens achètent ou bien n'achètent pas, mais ça nous on vend nos vélos, on donne nos vélos à personne parce que sinon ça devient injuste. Mais j'ai dit ok d'accord, j'ai dit est-ce que vous pouvez nous donner un rabais. J'ai dit ouais on peut voir à propos des rabais. Et puis le lendemain le monsieur a dit mais attends, mais tu es un DJ et tu fais un tour du monde à vélo et tu fais ça pour lever de fonds pour un organisme. Ça, c'est très intéressant, ça. Et puis, il était vraiment fasciné. Il a dit, ah tiens, non, on va te soutenir. Non seulement on va te soutenir, mais on va aussi te présenter à certaines personnes clés de l'industrie qui vont aussi, certaines sociétés qui vont aussi te donner un coup de main. Et c'est de là, ça s'est propagé. Et puis, voilà. Et puis, les gens entendaient, en fait, ils se disaient, mais il y a ce DJ et il fait des trucs assez sympas, mais aussi c'est une question de business parce que quand même ils savaient que oui c'était pas juste n'importe quel DJ, c'était quand même un DJ assez reconnu, un DJ qui a attiré de l'attention et que voilà c'était aussi plan business, c'est ça faisait l'affaire.
Tout le monde y trouvait son compte en fait.
Voilà.
Ouais. Je regarde ton vélo, donc t'as été présenté, je suppose, à SRAM, parce qu'en plus sur le site de SRAM il y a une histoire sur toi. Je note que tu es en électrique. Est-ce que c'est pas un petit peu galère en voyage d'avoir un groupe électrique ?
Non, pas du tout, parce que en fait, c'est comme un téléphone. Chaque semaine je le recharge. Et puis en ce moment, juste quand je traversais le Canada, à un moment j'étais mal pris, j'ai oublié de les recharger. Les batteries se sont épuisées. Et puis j'ai des batteries de rechange. Tout simplement, en deux minutes, je me suis arrêté. J'ai changé et en une minute, j'étais de retour à vélo.
Ouais.
Et puis quand je suis arrivé à destination, je les ai chargées.
Oui, non, franchement, elles se chargent très vite. En plus, je crois que c'est une heure chaque batterie rechargée.
Voilà. Ouais. Voilà. En tout cas, ça charge plus rapidement que mes phares. Mes phares avant et arrière, ainsi que mon téléphone. Donc, c'était vraiment très rapide. Mais aussi, l'avantage est que quand je vais chez des mécanos, c'est plus facile à entretenir. Et c'est plus rapide. Et c'est plus facile et plus rapide. Mais, donc pour moi, franchement, c'est la meilleure des solutions. Et en ce moment, vraiment, aucun problème. Le seul problème que j'ai à vélo, en fait, c'est juste une question de manque d'oxygène. Parce que, voilà, quoi, des fois, c'est un peu compliqué. Et ça monte. Mais sinon, le vélo, ça roule très, très bien.
Ouais. Souvent dans les conversations de voyageurs, en tout cas ici en France, on entend si je devais voyager, je prendrais un truc acier comme ça. Si ça pète, je peux le faire ressouder quelque part. Est-ce que tu as quelques appréhensions au fait de rouler avec un carbone ?
Non, pas du tout, parce que généralement si j'arrive à un stade où mon vélo se casse en mille morceaux, ça veut dire que j'ai d'autres problèmes, quoi. Ça veut dire que déjà, ça se peut que même moi, je me sois blessé. Mmh. Et puis, franchement, si mon vélo, disons si par exemple, je suis au fin fond de nulle part et que mon vélo se casse en mille morceaux, déjà, il faudra que j'aille à la ville prochaine, à la ville suivante. Mmh. Et à la ville suivante, ça va demander un lift ou quelque chose, ou bien que je fasse du stop ou quelque chose du genre. Et de là-bas, c'est un accident, ça arrive. ça arrive. Et puis, je pense que la société comprendrait que voilà, c'est pas comme si je suis. Peut-être que des fois je suis maladroit, mais c'est pas. Je prends soin de mes choses. Donc, disons que je pense que j'aurai un autre vélo, un autre cadre, je dirais plutôt. Voilà.
sur la traversée du Canada ou sur la traversée ou sur le tour du monde, tu privilégies plutôt les grands axes, les routes secondaires, ou au contraire, comme tu as un gravel maintenant, tu profites pour partir, pour t'échapper un petit peu, sans mauvais jeu de mots, pour t'échapper un petit peu dans les chemins et être vraiment vraiment seul. Et c'était ça. Celle-là, on la garde au chaud, cette question. Est-ce que c'est celle de tout à l'heure que j'avais oubliée? Est-ce que de traverser le Canada t'a rendu un petit peu moins solitaire? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu es un grand solitaire. Est-ce que ça t'a appris à socialiser un petit peu?
Non, en fait, je suis un être très, très social. Et c'est, en fait, c'est la partie qui embrouille les gens, surtout mes amis. Ils disent, mais attends, mais tu es la personne la plus sociable. Enfin, tu es la personne la plus genre, tu, quand tu arrives quelque part, tu es animé, tu es genre le clown, entre guillemets. Mm-hmm. Mais ce que les gens comprennent pas, que oui, mais ça, c'est juste 10% de qui je suis. Mm. Quand je suis vraiment, en groupe, ben, j'y vais à fond. Mais sinon, 90% de mon temps, ben, je suis solitaire. Mais moi, je savais dès le début que j'étais très solitaire, mais la traversée m'a vraiment convaincu que je l'étais vraiment. Et en fait, je trouve que non, je suis devenu, c'est pas que je suis devenu plus solitaire, mais je l'ai assumé. Et je me suis dit, bah, maintenant, oui, je comprends que vouloir être seul, il n'y a aucun mal, ça ne fait pas que je suis un être antisocial, ça fait juste que je suis une personne qui préfère être seule. Mais la chose, c'est que quand je suis en public et quand je suis avec mes amis, bah, là, je partage ce que j'ai à partager à 100%. Mais après, à certains moments, il faut que je me tire, quoi. Il faut que je me barre, que j'aille me retrouver dans ma solitude.
Et donc, les routes? Grands axes, ah oui. Route secondaire ou plutôt petit chemin pour renforcer ta solitude?
Mais en fait, à vélo, même si je suis au centre-ville, disons, même si j'avais, même quand je suis au centre-ville de, par exemple, de Londres, bah, mine de rien, je suis à vélo, donc je suis seul. Et ouais. Puis je suis, parce qu'en fait, j'aime être seul, mais ça ne veut pas dire que je suis ermite, que je suis, qu'on appelle, quelqu'un qui n'aime pas les gens. Ah, misanthrope.
Misanthrope.
Ouais, ça veut pas dire que je suis misanthrope. Ça veut dire que je veux que des fois, qu'on me foute la paix, quoi. C'est tout. Et à vélo, bah, c'est un truc que je peux faire. Je peux être dans une ville à vélo et je suis seul quand même, malgré le fait que je suis entouré de gens. Parce que c'est un truc qui se retrouve aussi en tant que DJ. Quand je suis DJ, je suis devant une foule. Je suis devant une foule et il y a des gens, il y a genre des centaines de personnes devant moi. Mais mine de rien, je suis seul. Je suis dans ma petite bulle. Et à vélo, pour le Canada surtout, parce que le Canada, c'est, malgré le fait que c'est un pays qui soit très grand, il n'y a pas beaucoup de routes. Et en fait, m'aventurer dans les routes secondaires ou bien les pistes, ça serait dangereux parce que si quelque chose m'arrive, ben, personne, ça se peut que la prochaine voiture qui passe, la prochaine voiture, ça soit dans 6 heures, quoi. Mmh. Et donc, pour moi, je privilégiais l'autoroute, mais aussi parce que l'autoroute, c'est le chemin le plus direct et c'est le chemin qui relie les villes. Ça veut dire que il y a des stations-service, il y a des restos, mais aussi c'est là où je suis, enfin, parce que au Canada la plupart des routes, les routes secondaires n'ont pas nécessairement des voies de secours, et donc tandis que les routes fédérales en ont. Ouais. Donc c'est plus prudent pour moi d'avoir ma propre voie que de partager la voie avec les camions ou bien les mecs qui sont en pick-up ou bien je sais pas, parce que on sait jamais. Et donc pour moi, je privilégie vraiment l'autoroute principale, la Trans-Canada, mais aussi elle se nomme la Trans-Canada, et pour moi c'est je traverse le Canada sur la Trans-Canada, ça, il y a quelque chose de poétique, quoi.
C'est la boucle est bouclée, on va dire.
Voilà. Mais sauf que, voilà, comme je dis aux gens, le Canada, on ne peut pas faire le tour du Canada, le Canada se traverse. Parce qu'il y a juste une seule route, donc il n'y a aucun moyen de faire une boucle. Il faut juste, on peut juste faire un sens, on peut juste traverser le Canada dans un sens ou dans l'autre, mais on ne peut pas faire une boucle. Donc le Canada se traverse, on ne peut pas faire un tour du Canada.
Est-ce que tu as rencontré des soucis, là, à l'instant, tu me parlais des gens en pick-up. Est-ce que tu as rencontré des problèmes d'incivilité au volant, justement, ou est-ce que tu t'es senti un petit peu en danger parfois à cause de la circulation?
Mais des fois, en circulation, il y avait certaines autres routes où, parce qu'à la base, dans n'importe quel pays, les gens, enfin, surtout, je trouve qu'au Canada, les gens, malgré le fait qu'ils sont très polis, mais on dirait que quand ils rentrent dans leur bagnole, c'est là où leur animosité ressort. Parce que les gens détestent à la base les cyclistes. Je sais pas, ça c'est un truc, je sais pas ce que les gens comptent les cyclistes, mais ça c'est un truc, c'est un phénomène, je pense, global. Les gens détestent les cyclistes. Oui, mais qu'est-ce que tu fais sur la route? Mais casse-toi, mais machin, cela, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc oui, des fois j'avais ça, mais la chose est que ici quand même, légalement, j'ai le droit d'être sur la route. Et récemment d'ailleurs, il y a plus ou moins 3 semaines, la police m'a plus ou moins, je roulais, puis j'ai vu une voiture de police, m'a dit, enfin, je m'en suis fait en fait contrôler, comme à vélo, c'était vraiment très bizarre parce que ils ont allumé les gyrophares ainsi de suite, et puis j'ai dû me ranger. Mm-hmm. Ils ont dit, quelqu'un a dit que vous êtes en train de rouler en plein milieu de l'autoroute. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de suicidaire ou bien est-ce que et puis vous, ça fait 20 minutes que vous êtes derrière moi parce que je vous avais vu de loin. Et vous avez vu, m'avez-vous vu être en plein milieu de l'autoroute? Ils ont dit non, on n'a pas vu ça. Et c'est pour ça que ça nous paraissait étrange. Mais quand même, en même temps, c'est un appel, quelqu'un composé le 911, qui est l'urgence ici. Mm-hmm. Il faut qu'on fasse une enquête. J'ai dit franchement, si vous voulez savoir, j'ai hâte de quitter cette autoroute parce qu'il est très dangereux, mais je n'ai pas le choix, il faut que je l'emprunte parce que c'est le seul. Et non, je ne roulais pas plein de milieu de l'autoroute. Mmh. Donc, oui, il y a des fois, il y avait ça, mais aussi il y avait des fois des jeunes connards, ou bien, je sais pas, il y a des gens, je pense que ça les amusait. Des fois, avec leur pick-up, ils s'approchent de moi, et puis, ils font un coup de, je sais pas comment ça s'appelle, ils accélèrent de telle manière que leur pot d'échappement, ça dégage.
Un petit peu dans la tronche, ouais.
Voilà. Mmh. Ou bien il y avait des voix qui m'ont jeté des bouteilles des bouteilles qui explosaient devant moi et puis c'était rempli d'urine. Mmh. C'était des trucs rares, quoi. C'était des trucs, mais ça c'est vraiment la bêtise humaine. Et oui, ça arrive. Du moment que, voilà, quoi, je m'en suis sorti indemne, ça va, quoi.
Dans les autres, donc ça c'était au Canada, et dans les autres pays que tu as pu visiter, ça se passait comment? Est-ce que tu as noté une différence et ou un pays où ça se passait vraiment bien? Où tu as noté une différence énorme?
Je veux dire que pour l'instant, le Canada c'était le pays le plus sympa parce que voilà, c'est le Canada. Mais je dirais aussi que partout, c'est vraiment, j'ai été très bien accueilli et évidemment, enfin oui, partout c'était parce que mine de rien, comme je dis, les gens détestent le vélo, mais en même temps, les gens, ils sont fascinés par les cyclistes. Surtout quand je traversais l'Europe, ils disaient, mais attends, t'es du Canada? Ah oui, mais, et puis, surtout en France, quand ils apprenaient que j'étais du Canada, que j'étais surtout de Montréal, de Québec, parce que la France, à ce moment, raffole le Québec, ah, c'était très sympa, machin. Mais en même temps, la France étant la France, des fois, il fallait que je m'adapte très bien, que je mette ma gentillesse au Canadien à côté, parce que, être trop sympa en France, on se fait marcher dessus, quoi. Mais je trouvais que les pays francophones, disons, notamment, la Belgique et la France, c'est là, c'était un peu plus compliqué. Il fallait un peu que j'ai dû lever le ton un peu pas mal de fois. Mais sinon, genre, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse, franchement, c'était très cool.
Eh ouais. Je sais même pas quoi te dire tellement t'as dressé un portrait très très vrai de l'ambiance à vélo en France. Ça devient extrêmement compliqué et c'est pour ça aussi que je te parle de gravel, parce qu'on est de plus en plus nombreux à s'échapper dans les chemins pour échapper à la furie de la circulation. Parce que parfois, ça devient extrêmement compliqué. Donc, il vaut mieux s'échapper dans les chemins plutôt que risquer de se fâcher et d'envenimer la situation. Si on parlait de World Relief, attends, je recherche l'expression exacte, sauf si tu peux me la rappeler tout de suite.
World Bicycle Relief.
Voilà. Alors, c'est quoi?
En fait, c'est un organisme qui a été fondé par les fondateurs de SRAM.
Ouais.
En fait, c'est le fondateur de SRAM qui a lancé World Bicycle Relief. Et c'est pour ça, en fait, c'est aussi pour ça que j'utilise la gamme SRAM et Zip. Parce qu'en fait, ils ont dit, franchement, ce que tu fais, c'est sympa, on aimerait te donner un coup de main. Et donc, durant le tsunami qui s'est passé en Asie il y a peut-être plus de 10 ans. Ouais, c'est plus de 10 ans, bien, oh, même. Oui. Je sais plus. Ouais,
un petit peu plus de 10 ans, ouais, effectivement.
Ouais, un peu plus de 10 ans. Là, il a décidé de, il a remarqué que, il a lancé, il a distribué des vélos pour contribuer au plus ou moins au redressement économique. Et puis après ça, il a remarqué que, en Afrique, certains enfants n'allaient pas à l'école, tout simplement parce que l'école était trop loin. Mm. Mais aussi, il voyait qu'il y avait certaines mortalités chez les femmes enceintes parce que elles n'avaient pas accès aux sages-femmes et que il n'y avait pas de il y avait personne pour s'occuper d'elles, mais aussi que certains entrepreneurs avaient du mal à aller vendre leurs biens au marché parce que faute de moyens de transport. Et il a dit mais attends, mais pourquoi ne pas distribuer des vélos. Mais là, en même temps, le problème est que d'habitude, la plupart des gens qui distribuent des vélos en Afrique, ils achètent des vélos ou bien ils font une collection de vélos en Europe ou bien en Amérique ou bien même ils les achètent en masse en Asie et ils les amènent en Afrique. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand les vélos se cassent? Ben, personne n'a les pièces, personne ne sait comment les réparer. Et en fait, ça fait une espèce de plus ou moins de grosse poubelle où le vélo, il est utilisé pendant 6 mois et puis se casse. Parce qu'en même temps aussi, les gens, quand ils envoient des vélos d'ici, ils envoient des vélos qui sont faits pour les routes canadiennes, pas pour les pistes, mais aussi pas pour... par exemple, certains commerçants, ils mettent quand même 100 kilos dessus, quoi. Ouais. 100 kilos de... Voilà. Et donc, les vélos s'abîment facilement. Et donc, lui, voyant qu'il venait d'un... Vu qu'il était d'un point de vue... qu'il était genre entrepreneur et qu'il était dans le monde du vélo, il a dit pourquoi ne pas lancer tout un écosystème où on peut envoyer les pièces en Afrique et puis former des mécaniciens qui vont monter les vélos et puis on va les distribuer aux enfants. Et ce n'est pas aussi un don, c'est une entente avec les élèves. Les élèves doivent quand même déjà aller à l'école souvent, mais aussi avoir de bonnes notes et les maintenir. Et puis de là, le vélo leur appartient. Et puis, donc, c'est pas l'image cliché. Ah, voilà, nous sommes les sauveurs d'Afrique. C'est vraiment c'est une manière de plus ou moins de donner un peu d'autonomie et parce que le problème en Afrique, que des fois, c'est juste la différence entre, par exemple, quelqu'un comme moi et quelqu'un qui n'a pas les mêmes, je dirais pas privilège parce que privilège, c'est un mot relatif, mais je dirais que la chance que j'ai eue, que j'ai pas mal d'opportunités. Mais si on présentait toutes les mêmes opportunités à tout le monde, au moins, on leur donne une manière de plus ou moins de s'en sortir et d'avoir une vie quand même assez sympa, quoi. Et donc, cette histoire m'a vraiment touché parce que vraiment, ça devient tout un commerce. Et puis, certains de ces élèves, ils grandissent, ils gardent le vélo, ils utilisent ça pour aller au travail et ça devient vraiment, ils s'y attachent, quoi. Et ça, c'était quelque chose qui m'a touché beaucoup parce que, étant d'origine africaine, mais aussi grand amateur de vélo, c'était ça vraiment, ça m'a parlé. Et puis je me suis dit, je vais les soutenir. Et de là, je les ai contactés. J'ai dit, voilà ce que je fais. J'ai une grande plateforme en tant que DJ et je compte faire un tour du monde. Mais oui, quand même. Oui, j'aime qu'on parle de moi, mais j'aimerais partager cette attention avec quelqu'un. Et pour moi, cette cause, ce que vous faites, ça me parle beaucoup. Et donc j'aimerais lever de fonds pour vous. Et de là, on a plus ou moins, ils ont plus ou moins fait ma page. Et voilà. Et depuis, j'ai fait de lever de fonds pour eux. Par exemple, en ce moment, pour la traversée du Canada, je suis à presque 10 000 dollars canadiens. Enfin, américain, je veux dire.
Ouais. Alors, tu m'as complètement coupé l'herbe sous le pied, si on peut dire, parce que j'allais te demander si la question des transports en Afrique était un problème, parce que on pense, tu vois, en tant que cycliste, en tant qu'amateur de compétition, on voit ça en Europe et tout, de notre point de vue. On voit que le cyclisme africain a du mal à émerger avec justement le tour du Rwanda, le tour du Faso, la Missa Bongo au Gabon, je crois. C'est pas super facile pour les coureurs africains d'émerger. Je crois qu'il y a un seul pro dans le World Tour. Mais c'est qu'un détail finalement par rapport à l'ampleur des défis de l'Afrique, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se soigner correctement. Et tu l'as parfaitement résumé. Donc là, vous fournissez des pièces de vélo pour que les gens puissent accéder à l'éducation et à des soins.
Voilà.
Et on va rester là-dessus. Comment on peut t'aider, nous? Si les gens qui écoutent décident de t'aider et d'aider la cause, comment font-ils?
Franchement, ils peuvent juste se rendre sur le site web du... c'est en anglais, malheureusement.
Je mettrai toutes les infos dans l'épisode du podcast.
Ouais.
Donc, ils pourront aider aisément.
C'est je vais dire ça en anglais.
Vas-y, dis-le en anglais, on se débrouillera.
C'est bikeforbikes.com.
D'accord.
Donc, c'est bike, et puis le numéro 4, pour signifier for, c'est un jeu de mots. Et puis bikes, au pluriel, .com. Donc en fait, c'est faire du vélo pour des vélos. Voilà, donc bikeforbikes.com. Et puis ils peuvent faire un don. Mais aussi, si vous voulez suivre plus ou moins mes aventures, je suis sur Instagram, @jabig.
T'inquiète pas, il y aura tout qui sera partagé pour qu'on puisse suivre tes péripéties. Et j'ai même commencé à écouter une de tes playlists tout à l'heure en nettoyant mon garage. Donc
Ah merci, c'est sympa.
Je t'ai dit, j'adore la musique, donc ça va me donner l'occasion d'explorer un pan de la musique que je connais très très mal. Donc c'est cool, et en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'as de la musique brésilienne et j'adore ça. Donc ça va être un vrai plaisir. Bon, Jabig. On va s'arrêter là parce qu'il est, pour moi, il est 17h et il va être l'heure d'aller m'occuper de mes enfants. Et dans cette émission, il y a un truc que j'appelle la minute de solitude. Donc, pour chacun de mes invités, tu es le 78e. Je pose mon micro et je vous laisse dire ce que vous voulez. Donc moi, je vais poser mon micro, je vais sortir de la pièce et je te laisse devant ton micro. Tu dis ce que tu veux. Ok.
Pendant combien de temps?
Une minute. 2 minutes, j'en ai même un qui a fait 15 minutes comme ça.
Ah non, je pense que je vais dire ce que j'ai à dire et puis.
Non mais il a bruité une épreuve et on avait les avions qui passaient au-dessus de lui, la chaîne qui grinçait parce qu'il a fait une grosse course au Maroc et on avait tous les détails sonores de ses péripéties. Donc tu n'es pas obligé de faire ça, rassure-toi, tu dis ce que t'as à dire, tu fais ce que t'as à faire et ça sera magnifique. En attendant. Merci beaucoup, c'était super cool. Bien entendu, je te souhaite tout le meilleur pour cette sortie de pandémie. J'espère que le Québec sera bientôt ouvert et que tu pourras repartir à l'aventure. Et si tu passes à Paris, fais signe.
D'accord, je te remercie beaucoup. Et puis, je suis en panique parce que je ne sais pas quoi dire. On verra.
Mais c'est parfait. Allez, je te laisse. À très bientôt. Merci.
Ciao, ciao. Merci à tout le monde d'avoir écouté le bon podcast, enfin le podcast sur lequel j'étais invité. Comme je dis, si vous aimez faire du vélo, si vous avez ce privilège de rouler parce que ça fait un plaisir ou bien parce que voilà, c'est un sport, je pense que nous sommes assez responsables d'autrui et de savoir qu'il y a d'autres personnes qui pourraient... avoir les mêmes plus ou moins profiter des mêmes avantages que nous. Et donc, ça ne vous gêne pas vraiment songer à donner un coup de main à World Bicycle Relief parce qu'il faut vraiment du beau boulot. Et franchement, mine de rien, c'est fou comment juste le vélo peut participer au développement économique de son monde et rendre la vie quand même assez facile pour tout le monde. Ce qu'on aimerait faire, enfin, ce qu'on aime pour nous et qu'on aimerait que les autres puissent avoir. Donc, je vous remercie beaucoup et rendez-vous sur Instagram.